Je suis nostalgique, même si cette émission est encore en onde. Je suis nostalgique, Catherine.
Oui, puis les gens qui nous écoutent doivent avoir un certain décalage parce qu'on est près de la diffusion d'un souper presque parfait et d'entendre le thème comme ça nous rappelle que c'est une émission quotidienne, que c'est beaucoup de travail et que la personne qui l'a animée depuis les 10 dernières années, même on peut dire qu'on est dans la 11e saison, c'est André Ducharme qui a décidé aujourd'hui d'annoncer qu'il quitterait l'émission et il est avec nous. Bonjour André.
Bonjour, ça va bien?
Allô, André. Ben ça va bien, puis en même temps, c'est un petit choc, là, je t'avoue.
Ben écoute, ce thème que vous venez d'entendre, moi, je l'ai entendu à peu près 25 000 fois. Parce que chacune des émissions, chacune des émissions me demande plusieurs écoutes. C'est beaucoup de travail. Puis à chaque année, j'avais toujours la question, je dis, bon, est-ce que j'en fais une autre? Puis, ben là, cette année, j'en suis arrivé à la conclusion que pour moi, c'était de la fin du parcours.
Mais qu'est-ce qui a motivé ton choix? Qu'est-ce qui fait que là, dans la balance, ça va plus vers le non que le oui?
Ben, vois-tu, cette année, on a eu à servir de bord pour COVID oblige, donc on a pondu un concept de meilleur moment. On a fait comme un peu la revue des 10 années d'émission. Et puis, mais moi, je me retrouve présentement dans une situation où je me dis, bon, je sentais que la décision que j'avais à prendre, c'était pas est-ce que je refais une année de plus, c'était est-ce que je refais un cycle de plus. Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'étais peut-être mieux d'arrêter avant. Que de faire la saison de trop, en fait. C'est un peu ça. Tu sais, quand on fait de la télé comme ça, puis tu sais, un souper presque parfait, c'est 130 demi-heures par année. Moi, je suis impliqué à tous les niveaux de la production. J'étais producteur maintenant d'émission, j'étais coproducteur. Fait que là, tu fais, bon, OK, est-ce qu'on repart pour une autre année, puis... L'autre affaire aussi, c'est, tu sais, on est dans une situation où on ne sait pas quand est-ce que cette émission-là va revenir. Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans deux ans? J'aimais mieux prendre cette décision-là maintenant que dans deux ans.
Ah, c'est vrai, c'est pas fou. Il y a cet aspect-là qu'il faut considérer, en effet. Écoute, dans ta très, très belle lettre publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tu dis, je ne savais pas à quel point un souper presque parfait allait changer ma vie. Ça m'a permis de m'investir totalement, faire un projet fait sur mesure pour moi, mieux comprendre les relations humaines, devenir une meilleure personne. En quoi t'es devenue une meilleure personne au contact de ces gens qui mangeaient ensemble et tout?
En comprenant mieux les relations humaines, tu sais, quand tu vois aller, il y a eu beaucoup de participants, hein, il y en a eu 1300, je pense, en tout. On a fait 1400 quelques émissions, mais bon, il y a des gens qui sont venus une couple de fois. De voir vivre ces gens-là, de voir comment une émission de télé peut changer des vies. Moi, c'est vraiment ce bout-là qui m'a vraiment étonné de voir que, tu sais, il y a des couples qui ont été formés pendant l'émission. Il y a des enfants qui sont nés parce que deux personnes s'étaient rencontrées pendant un souper presque parfait. Il y a une émission.
Le bonheur est dans le souper presque parfait. Là. Ça va être un nouveau titre. Tu vas pouvoir faire les couples.
Le bonheur est dans l'assiette. En fait, on a formé plus de couples durables qu'occupation double.
Ça, c'est vraiment... Toutes les émissions ont fait plus de couples durables qu'occupation double.
Ben oui, mais non, ça, c'est vrai. Mais, tu sais, de voir des vies qui ont changé, de voir des amitiés qui se sont créées autour des tables, il y a vraiment... C'est plus qu'une émission de télévision, un souper presque parfait. Puis moi, j'ai créé des liens avec des participants. Par la suite, je les rencontrais jamais avant, mais je les rencontrais souvent après. Et moi, ça, c'est ce que je retiens au-delà de la compétition puis des assiettes puis de tout ce qui peut se passer autour des tables. C'est l'expérience humaine que je retiens. Puis ben oui, ça m'a changé dans un sens.
André, dans le bout de phrase que Marc-Claude n'a pas lu encore, il y a la partie qui vient après, et de devenir en prime un bien meilleur cuisinier. J'ai de la misère à le croire.
Ben pourquoi?
Il y avait des recettes qui étaient belles là-dedans.
Oui, mais je me dis, mon Dieu, j'ai tellement vu d'affaires garrochées aussi.
Ben moi j'en tiens plus on en a parlé cet été, tu sais, André, de Mia, oui. Là, qui elle, je pense qu'elle prenait quelques petits raccourcis.
Mais t'as pas fini tes techniques.
Ben oui, parce que bon, ça doit être une compétition de cuisiniers amateurs là-dedans. Il y a des gens qui savaient ce qu'ils faisaient, puis il y a eu des gens de très haut niveau. Et je me suis rendu compte, un peu malgré moi, je me suis rendu compte, sans m'en rendre compte, que j'avais passé je ne sais pas combien d'heures à regarder des gens cuisiner. Fait que, à un moment donné, je me suis mis à cuisiner, puis je me suis dit, j'ai changé ma technique de coupe, j'ai changé telle affaire, j'ai appris à me servir de tel appareil. Tout d'un coup, je comprends comment faire. J'ai tellement vu cette préparation-là que je suis quasiment capable de la faire les yeux fermés. Fait que je suis pas un très grand cuisinier, mais je suis au moins meilleur que j'étais il y a 10 ans.
Et, déjà ça. Et quelle recette t'as découvert à l'émission là et que tu dis c'est de gars, j'en mangerai tous les jours. Une recette que t'as appris à faire à l'émission.
Ben c'est pas tant. Ben oui, en fait, quelque chose que j'ai découvert que je connaissais pas, c'est les joues de veau, les joues de bœuf, par exemple, ce genre de préparation là. Que ça a l'air de rien, puis c'est pas quelque chose d'extraordinaire, de très compliqué à faire, là.
Mais
c'est bon en tabarouette.
Mmh,
c'est
oui.
Quelque chose qu'on est porté à faire. Moi, les premières fois que j'ai vu ça, c'était un souper presque parfait. Puis ce que j'ai découvert aussi, c'est le thermocirculateur.
Ah, ben oui. Ben oui. Dis-moi, je te ramène.
Tellement.
Ben oui, c'est ça. Tu sais, je suis un peu jalouse parce que moi, j'aimerais ça avoir ça
moi aussi,
dans ma
moi
cuisine.
Aussi. C'est, oui, c'est ça.
Je te ramène à la genèse parce que dans ta lettre oui. Où tu t'es exprimée sur les médias sociaux, tu parlais des débuts quand Guillaume L'Espérance mm-hmm. t'avait proposé de tenir ce rôle de narrateur. Au départ, mm-hmm. t'avais dit non. Puis finalement, t'es revenu sur ta décision. Et on t'a dit, en fait, Guillaume a protégé le fait qu'il ne voulait pas que tu fasses d'audition. C'est un cadeau ouais. précieux, hein, ça, de recevoir comme ça un travail qui va nous occuper pendant 10 ans et qui va nous faire vivre aussi pendant 10 ans, ouais. puis de le recevoir comme ça.
Oui, absolument, parce que puis je lui ai dit merci une couple de fois là. En télé présentement, je connais pas beaucoup d'émissions qui fonctionnent sans audition. Il y aurait dû avoir 10 narrateurs. Qui s'essaye, puis peut-être que c'est pas moi qui l'aurais eu. Probablement que c'est pas moi qui l'aurais eu. Ça, c'est très, très précieux. Et l'autre truc que j'ai réalisé aujourd'hui en jasant avec du monde, qui est, ça, c'est un privilège que j'ai eu pendant ces 10 années-là, 10 années et demie-là, personne n'a joué dans mes textes.
Ah, c'est vrai que c'est un grand cadeau. Un grand, grand
jamais,
cadeau.
Je n'ai jamais eu... Tu sais, l'étape que les textes doivent être approuvés par quelqu'un, un souper presque parfait, cette étape-là n'a jamais existé.
Fantastique. Dis-moi, toujours dans cette lettre, qui est très inspirante, tu dis « Le moment est venu pour moi de passer à autre chose. Je ne sais même pas quoi en plus. Je vais laisser la vie décider. Elle ne s'est pas trompée souvent. » Je vais mm-hmm. me permettre de te citer à l'avenir. Je trouve ça très joli comme phrase. « Je vais me fier à la vie. Elle ne s'est pas trompée souvent. » Ça veut dire que toi, dans le fond, quand tu regardes en arrière, même les bouts plus difficile, les bouts plus rough, comme on dit, là, tu trouves que la vie te traite bien?
Ben, professionnellement, j'ai été très, très chanceux. Là. J'ai pas eu trop d'échecs. Et les échecs que j'ai eus, parce que souvent, les gens me disent, « Hey, toi, quand t'embarques dans un projet, ça dure longtemps. Rock et belles oreilles, tout le monde en parle, un speed presque parfait. » Je dis toujours, c'est parce que les projets qui n'ont pas duré longtemps, ils ont tellement pas duré longtemps que les gens les ont oubliés. C'est que c'est parfait comme ça. Mais j'ai aussi réalisé, parce que souvent, tu sais, quand dans ce métier-là, on développe des choses, on développe des projets, puis je me suis rendu compte que souvent, les choses qu'on me proposait étaient peut-être plus intéressantes que les choses que je développais moi-même, parce qu'on me proposait des choses étonnantes, puis c'est souvent là que moi, je découvrais que je pouvais faire des affaires que je savais pas que je pouvais faire. Tu sais, j'ai joué dans un téléroman, j'ai joué dans Virginie pendant 4 ans, c'est complètement fou. J'ai remplacé Paul Arcand pendant 2 étés. C'est pas moi qui aurais eu l'idée d'aller sonner à la porte, de « Hey, est-ce que je peux remplacer Paul Arcand? » C'est voyons donc, il y a quelqu'un qui me l'a proposé. Ces choses-là, c'est quelqu'un d'autre qui décide de t'offrir quelque chose. C'est presque parfait, c'est la même chose. Puis moi, je trouve que c'est des cadeaux extraordinaires dans une carrière, ces trucs-là.
C'est drôle parce que quand tu avais remplacé Paul Arcand, je t'avais appelé comme auditrice. J'avais
ah oui?
Oui, je me souviens encore de ça. On parlait des Beatles, je sais pas trop, je pense. Okay. Tu parlais des Beatles, puis j'avais raconté un souvenir. Ça a été mes débuts ouais. ici au 98.5. Mais
hein? on sait jamais où un appel téléphonique peut nous mener.
Si j'ai bien compris, l'émission va te survivre, donc elle va continuer sans toi. C'est bien ça?
Je sais pas.
Ça dépend du post-pandémie.
Je pense que le nouveau... pense qu'il y a une volonté de nouveau de poursuivre cette série-là, et pourquoi pas. Moi, je trouve que, tu sais, cinq personnes, cinq étrangers autour d'une table qui peuvent prendre un repas ensemble, le jour où on va pouvoir refaire ça, ça va être extraordinaire. Et c'est peut-être ça aussi qu'un souper presque parfait, deuxième mouture, va amener un retour à la normale. C'est un symbole aussi.
Et qu'on se le souhaite.
Et je veux juste te dire que ça ne sera plus jamais ta voix et elle va nous manquer parce que c'était vraiment une marque de commerce de cette émission.
Ah, tout à fait. Moi, je riais tellement.
Au tout début d'un souper presque parfait, les premières critiques disaient que c'était une très bonne émission, mais qu'il y avait un problème, c'est la personne qui parlait.
Ben là.
Mais c'est ça qui faisait le show. Écoute, c'est ça.
Ouais, mais c'est parce qu'il y a 10 ans et demi, une narration par-dessus une télé-réalité, ça s'était jamais fait vraiment ici. Alors les gens trouvaient que ça dérangeait, puis pensaient que pendant que le narrateur parlait, on ratait quelque chose. Moi, les gens ont compris que la narration amène quelque chose de plus, puis c'est pas moi qui l'amène, c'est un concept qui vient d'ailleurs, puis il y a un narrateur dans 25 pays, puis c'est pas moi dans les 24 autres. L'idée d'avoir un narrateur qui commente une télé-réalité, c'était à cette époque-là quelque chose de nouveau. C'était déstabilisant au départ, mais avec le temps, on a réalisé que c'était quelque chose de le fun, t'sais.
Bien, merci beaucoup, André Ducharme.
Oui.
Je rappelle que la dernière émission de cette QV, cette saison, sera diffusée le 11 décembre. Et merci de nous avoir accordé du temps aujourd'hui.
Merci infiniment. Oui.
Merci. Et j'avoue que j'ai un petit moton à la fin de la dernière émission. Parce que moi, je le savais que c'était ma dernière et personne ne savait.
OK. Oh. Bien, écoute, on va écouter ça. On va écouter ça dans ce contexte-là. Merci, puis bonne continuation. J'ai hâte à la suite.
Et merci à vous autres.
Merci. Bye-bye.